David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, qui est avec nous. Bonjour David Lebars. Bonjour. L'actualité nous amène à parler déjà de cette proposition. Vous avez vu des sénateurs qui demandent la légalisation du cannabis. Ils veulent qu'on y réfléchisse politiquement. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ah, on vous entend pas, David Lebars. Pardon, on vous voit. On a un petit problème de son. Est-ce que ça vient de chez vous? Est-ce que ça vient de chez nous?
Micro.
Allez-y, répondez à ma question, puis on va voir si ça marche ou pas.
Non.
Non, on vous entend pas. Bon, on va reprendre la liaison Skype et puis on en a pour deux secondes.
Les avantages du direct, ça.
Et puis c'est
vrai direct.
Ah, oui,
c'est pas pratique
quand l'invité n'est pas en plateau, mais en même temps, ça permet Skype permet justement d'avoir les gens en direct, parce que c'était le débat animé tout à l'heure. C'est vrai que tu as à la fois les policiers qui disent aujourd'hui, on en a assez souvent de courir après des petits trafiquants ou après des petits jeunes, on perd notre temps, et tu as le débat politique qui n'a pas été tranché autour de cette question du cannabis. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la réponse de David Lebars.
Mais est-ce
qu'on vous en... Allez-y, répondez, monsieur Lebars.
Oui, bonjour, vous m'entendez?
Bonjour.
Parfaitement, c'est bon, on y va. Alors, que pensez-vous de cette proposition de légalisation?
Alors, j'allais vous dire les choses. Hein. Réflexion politique, c'est toujours très important à avoir, et c'est le travail des parlementaires. Moi, je veux juste dire une chose, j'ai écouté votre émission. Il ne faut pas s'imaginer qu'en dépénalisant ou en légalisant, on va réduire les trafics, on va les réduire à la marge. Qu'est-ce qui va se passer en fait? L'État ne pourra vendre que certains produits dans certaines quantités, et ça s'adressera à une population qui est une population raisonnable, qui voudra rester à ce niveau-là de consommation. Donc tout ce qui est trafic, tout ce qui est criminalité va s'adapter, va vendre des produits de plus en plus forts, et ça va finalement créer un double commerce et une double concurrence. Donc si l'idée, c'est de casser l'économie souterraine ou les trafics, ça, c'est pas la bonne idée. Après, sur le plan santé publique, c'est pas mon sujet, mais il faut pas être naïf là-dessus.
Mais parce qu'on entend souvent vos collègues policiers de terrain dire, écoutez, ça nous prend trop de temps, on a d'autres choses à faire que de courir après les petits dealers ou les petits trafiquants. Au moins, ça, on passera sur une autre délinquance sur la voie publique.
Mais c'est certain que quand on nous faisait faire du chiffre il y a quelques années sur les petits consommateurs, ça n'avait aucun sens. Je crois que les consommateurs, il y a une des réponses qui a été apportée, c'est l'amende forfaitaire délictuelle. Un consommateur, s'il ne comprend pas que quand il vient alimenter un plan de drogue, il faut le punir au portefeuille, eh bien il y a l'amende forfaitaire. Mais effectivement, sur tout ce qui est petit trafic, il y a une dépénalisation de fait. Nous, on s'occupe des gros trafics, on s'occupe des points qui fait que les gens ne peuvent plus rentrer dans leurs immeubles, ne peuvent plus vivre tranquillement. Et ça, dans des quartiers difficiles, maintenant, ça s'est répandu partout. Et il faut que cette répression policière, accompagnée d'une réponse pénale, soit maintenue. Le sujet de la dépénalisation, c'est un sujet politique, mais je vous dis, on ne réglera pas cette criminalité qui fait vivre, malheureusement, énormément de monde et sur laquelle nous, on doit continuer de travailler.
Donc, si vous dites aujourd'hui, c'est plutôt à la justice de faire son boulot, quoi, en fait, c'est ça?
La justice, moi, je la critique pas par rapport au fait qu'elle le fait ou qu'elle le fait pas. Je suis, comme beaucoup sur ce plateau, lucide sur le fait que les moyens qui manquent, le grand absent, c'est l'effort considérable qu'il faut mettre sur la justice pour que la chaîne pénale puisse répondre à la chaîne policière. Moi, je ne connais que des policiers qui interpellent des multi-réitérants, qui ne baissent jamais les bras. Et le fait même d'avoir des multi-réitérants dans les commissariats, c'est bien la preuve qu'à un moment, la sanction n'a pas fonctionné, n'a pas été dissuasive, ou ils n'ont pas été enfermés. Là, il y a un sujet.
Justement, puisque vous parlez des multi-réitérants, on a vu, là, au cours des dernières 24 heures, ces images de cette course-poursuite là, qui a eu lieu dans Paris avec vos collègues policiers qui ont réussi à coincer une voiture. Bon, alors là, on était vraiment dans une scène de film, hein, parce qu'ils sont allés au contact, enfin, ils ont percuté la voiture pour l'immobiliser. Ça, c'est le quotidien des policiers, c'est refus d'obtempérer, et derrière, c'est la course-poursuite.
Alors le quotidien, évidemment, c'est les refus d'obtempérer. Un toutes les 20 minutes en France, c'est juste ahurissant. Deuxième point, j'adresse mes félicitations à cet équipage qui a réussi une interpellation technique extrêmement difficile. Mais après, il faut ouvrir les yeux. Ce qui s'est passé là, c'est l'entière responsabilité de l'équipage. Je les félicite, c'est parfaitement réalisé. Mais il faut réfléchir maintenant à la suite. Si on doit en arriver là en France, à ce contact tactique, il manque beaucoup de choses. D'abord, il manque les outils législatifs. C'est la loi qui doit protéger les policiers, c'est pas le chef ni l'administration. Parce que le jour où il y a un ennui, le policier ou le chef, il est tout seul devant la justice. Donc c'est au législateur de réfléchir. Et puis s'il doit réfléchir en ce sens, il faut bien peser les risques. Parce que si on a des blessés, imaginez la même scène avec des piétons écrasés, ou même les auteurs qui auraient été écrasés, imaginez un certain camp politique qui aurait hurlé au scandale. Donc il faut protéger juridiquement les policiers, il faut légiférer, il faut aussi, si un jour on va sur ce chemin, leur donner les véhicules adaptés. Les États-Unis ont ça, les Anglais ont ça. Il faut des pare-chocs à l'avant adaptés à la poussette. Donc tout ça est très loin d'être une réalité en France. Puis encore une fois, la largeur de nos rues, comme à Paris, c'est pas non plus les rues aux États-Unis. Donc attention à ce genre de manœuvre, c'est pas la panacée, ça ne peut être que dans des cas extrêmement limités.
Stéphane Manigault.
Non mais vous le rappelez, David Lebars, là, ce qui s'est passé dans Paris, en milieu dense, urbain, avec du monde, c'est formidable. Ce qui est l'interpellation, c'est presque miraculeux.
C'est miraculeux.
Mais vous soulignez un point essentiel, c'est une meilleure protection de nos forces de police dans le cadre de ces interpellations. On est tous unanimes pour dire bravo, c'est formidable, merci la police. Il faut que vous soyez mieux protégés si jamais il se passe quelque chose.
Je peux vous rejoindre
en pensant
quelque chose. Il faut les protéger à la fois avec le matériel et puis également avec des dispositifs juridiques. J'ai trop vu de policiers, vous savez, à qui on dit de faire comme ci ou comme ça. Et puis le jour où il y a un pépin, la loi pénale est faite ainsi, hein, la responsabilité pénale, s'il y a poursuite, eh bien, le policier ensuite, il est enclenché dans un processus où il doit rendre des comptes. C'est normal, c'est injusticiable. Mais s'il doit rendre des comptes, il faut que, non pas l'administration, mais que les lois qui nous permettent d'agir protègent nos policiers et leur permettent surtout d'être accompagnés dans le chemin juridique.
Je voudrais que votre position soit claire. Là, on a vu ce refus d'obtempérer, cette course-poursuite dans Paris. Il y a aussi la question des rodeaux urbains. Est-ce que vous êtes pour que les policiers puissent désormais aller à ce qu'on appelle au contact technique, c'est-à-dire puissent percuter une voiture, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif légal. Vous êtes pour ?
Alors, percuter une voiture quand un crime a été commis, oui, je vous dis, avec des conditions juridiques et les moyens adaptés. En revanche, aller percuter des rodéos motos qui tombent dans les quartiers, aller faire tomber ces voyous qui sont sur des motos en faisant des chocs de véhicules, je vous dis non. Pourquoi ? Parce qu'en Angleterre, contrairement à ce qu'on nous fait croire, ce contact tactique, il est réservé à certains crimes. Il n'est pas adapté aux rodéos. Vous faites ça dans un quartier difficile, un jeune, un voyou qui tourne sur une moto, quel que soit d'ailleurs son niveau d'ancrage dans la délinquance, si vous allez le percuter avec une voiture, je peux déjà vous prédire et vous garantir qu'il n'y aura plus personne pour valider ce type de comportement. Donc, ce n'est pas la peine non plus de rentrer dans de la science-fiction. Il faut l'adapter à certains crimes, des crimes graves, des crimes qui durent, des crimes qui mettent en danger ensuite la population, et donner les moyens aux policiers de le faire dans des conditions très encadrées, très structurées.
Une question, Lina Dumont.
Monsieur Lebars, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en même temps, ça donne l'impression que, vous voyez, cette femme-là, cette maman dont la petite fille a le crâne et à vie, elle aura des séquelles. Enfin, j'espère que vous allez me comprendre, mais ça, on comprend que bon, qui tue des gamins, c'est pas grave. Par contre, non, il faut surtout pas qu'on bouscule un gamin et puis qu'il se retrouve avec une jambe cassée parce qu'on on a fait du touche-touche avec une voiture. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Je comprends très bien, mais c'est pas moi qui dis ça. C'est une partie de la classe politique, des associations qui vont se mettre à hurler, déclencher des manifs, des émeutes, des marches blanches. Les policiers, c'est pas le raisonnement que je vous donne de leur part. Je vous dis juste que on n'aura jamais ce soutien politique et législatif. Ça n'arrivera pas. C'est une chimère. On n'aura jamais l'autorisation d'aller percuter des motos en voiture. Il y a d'autres solutions. Ces motos qui tournent. Moi, j'en avais qui tournaient autour de mon commissariat. Il faut qu'on nous redonne tout simplement déjà la possibilité de mettre des herses. Vous savez qu'on nous les a supprimées, y compris pour les voitures, parce que ça pouvait déclencher des accidents. Là, oui, parce que si la herse fait chuter le motard qui embête tout un quartier, ce sera sa responsabilité. Mais je vous dis juste, le choc tactique sur des motos qui ne font que du rodéo urbain, et je ne parle pas d'un rodéo urbain qui dégénère et qui aboutit à un drame absolument horrible, et je suis le premier à le regretter, mais je vois bien que cette émotion sur ce drame, vous prenez le même drame, mais c'est le voyou qui a le crâne fracassé, et je vous garantis qu'on parlerait d'une semaine d'émeute. Donc je dis juste qu'il faut qu'on soit lucide sur ce qui va être faisable ou pas faisable en France.
Oui, parce que j'espère, monsieur Lebars, que l'objectif aussi, pour la police, je l'espère en tout cas, n'est pas de fracasser le crâne des voyous, parce que c'est pas comme ça non plus qu'on règle les problèmes. Ceci étant dit, je trouve que c'est moi d'aller au contact, je trouve que c'est héroïque et que c'est miraculeux, c'est ce que je disais à Stéphane, qu'il n'y ait pas eu de blessés, y compris chez la population civile, chez les passants. Donc vraiment c'est un miracle. Ceci étant dit, moi je vais revenir sur la question du cannabis. J'habite à Marseille, je suis née dans les quartiers populaires. C'est une question que je connais bien, malheureusement, et où je vois des drames dans des familles endeuillées et meurtries pour l'éternité, sans aucune solution. Donc moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand on dit que ça va continuer à générer le même trafic. Je considère qu'il y a des gens qui vont se mettre à leur compte, etc. Parce qu'on en connaît des trafiquants, et c'est malheureux, mais c'est comme ça, ils ont grandi avec nous. Ceci étant dit, concernant la prévention, on a eu tout à l'heure un témoignage hyper touchant d'un papa dont le fils était tombé là-dedans et qui ne pouvait pas aujourd'hui prévenir ça ni le soigner. Et je pense qu'en légalisant, on aura des moyens financiers plus importants pour avoir les moyens humains et les structures matérielles pour prendre en charge ces enfants, non seulement faire de la prévention dans les écoles, y compris avec la police, hein, pour dire ce que ça coûte, ce que ça fait, ce que ça coûte en termes de vie, de destruction de vie, des associatifs. Je pense que la prévention, la légalisation permettrait la prise en charge, la prévention et la prise en charge de ces malades, parce que moi c'est des malades, de ces enfants qui deviennent absolument dépendants de cette substance.
David Le Bars.
Mais sur ce point-là, je vous rejoins à 100%. Si la légalisation permet à l'État d'engendrer de l'argent pour investir dans la prévention, personne ne va contester ça, pas même un policier. Mon propos, c'est juste de vous dire que parlons de cannabis, parlons d'héroïne, parlons de cocaïne, parlons de crack. Demain, si on légalise, si l'État légalise, vous savez bien, vous et moi, que l'État ne se mettra pas à vendre un kilo de crack. Il viendra en acheter ni 20 cailloux de crack, 5 kilos de cannabis. Il va y avoir des quantités limitées et surtout des taux limités. Le cannabis, l'État va être obligé de vendre un cannabis léger, peut-être à 5, à 6 % de THC. Qu'est-ce que font les voyous, les gros deals aujourd'hui? Ils vendent des produits de plus en plus forts, ils vendent des cannabis à 15, 20% de THC. Moi, j'ai commencé ma carrière de policier, ça n'existait quasiment pas, un cannabis aussi fort. Aujourd'hui, vous trouvez des produits extrêmement puissants et la concurrence criminelle, les mafias criminelles vont s'adapter si l'État prend une part du marché. Je dis juste que ces mafias criminelles vont s'adapter, vont vendre les produits que l'État ne vend pas et ça subsistera. Voilà, c'est juste ne pas être naïf là-dessus. Il y aura des points peut-être positifs et encore, il faut regarder ce qui a été fait à l'étranger. Exactement. La légalisation, certains nous vendent des modèles réussis. C'est faux. Il y a eu des énormes difficultés sur le plan trouble à l'ordre public, sur le plan des populations qui ont été drainées pour venir là-bas parce que c'était devenu des supermarchés. Et pas mal de ces pays-là ont fait marche arrière. Donc soyons très objectifs et prenons tous les sujets dans leur ensemble.
David Le Bars, aujourd'hui, il y a des images qui sont devenues banales, celles des attaques de commissariats. On l'a encore vu très, très récemment, on en a parlé ici dans les Grandes Gueules. Attaque au mortier, attaque au cocktail Molotov. On a vu ce qui s'est passé pour vos collègues là de région parisienne. De quels moyens peuvent disposer les policiers aujourd'hui pour en finir avec ces attaques, cette impunité peut-être que ressentent justement ces jeunes qui les font?
Alors d'abord, ça c'est un constat très grave. Il y a 20-25 ans, on subissait des violences urbaines quand on intervenait dans les quartiers dits sensibles. Aujourd'hui, on voit bien que ces quartiers sensibles, il y en a dans toutes les villes, premier point. 20 ans après, il n'y a plus besoin de violences urbaines par une intervention de police. Ils viennent attaquer les commissariats. C'est extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il y a comme réponse à ça? Il y en a une seule. D'abord, si l'attaque est très grave, il y a évidemment les légitimes défenses, dans les règles du droit qu'on connaît, on ne va pas réciter la loi. Mais au-delà de la loi, il faut que la justice sur ces actes-là soit intraitable. Quand on va attaquer un commissariat avec des moyens incendiaires, ça c'est une tentative de meurtre en bande organisée. C'est le cas dans le Val-de-Marne. Il faut que ces gens-là soient déférés, poursuivis et enfermés, parce qu'on ne peut pas s'en prendre impunément à un commissariat ou à une gendarmerie, sinon le cran d'après, c'est l'invasion, c'est la prise d'assaut d'un commissariat de police. Et là, je ne vous dis pas la réaction où il y aura usage des armes à juste titre par les policiers qui se défendront et qui défendront les biens. Donc, il faut que là-dessus, il y ait les moyens de la chaîne pénale. Moi, j'ai participé à une réunion avec Éric Dupond-Moretti. J'attends celle de la rentrée. J'attends les états généraux de la justice. Je regrette que les syndicats de magistrats, d'ailleurs, ne siègent pas à la table autour de leur ministre, ce que nous, on a fait avec le ministre de l'Intérieur. Il faut progresser et faire en sorte que cette chaîne pénale devienne efficiente. Vous l'avez dit sur votre plateau, je vous ai écouté, les Français demandent de la sécurité. Pour avoir de la sécurité, il faut que la justice ait les moyens de la fermeté.
Oui. Il y a une escalade, monsieur Le Bars, de manière générale, dans tous les domaines de la violence, qu'elle soit dans l'espace public ou dans l'intimité ou même dans les commissariats. Moi, je pose une question qui est très simple en tant que concitoyenne. Que faudrait-il faire réellement, au-delà des attaques de commissariats, pour sécuriser le pays quand on sait que, bien entendu, on ne pourra jamais mettre un agent derrière chaque voyou? Ouais. Donc c'est ça la réalité. Donc au-delà de la on va les mettre en prison, on va pas les mettre en prison pour l'éternité, ils vont sortir tôt ou tard. Je suis pas sûr que le système actuel de la prison soit le bon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment sécuriser le pays?
Alors ça c'est un très long débat, je vais essayer de vous donner 2-3 éléments de réponse. D'abord, on est en 2022, il faut mettre en place de façon concrète et arrêter les grandes théories, ce qu'on appelle le continuum de sécurité. Ça commence par quoi? C'est-à-dire qu'à la police et à la gendarmerie, il faut qu'elle laisser uniquement le gros régalien. Et puis ensuite, il faut décliner le partenariat de sécurité avec les polices municipales, les entreprises de sécurité. Il faut nous délester de missions et de charges indues et nous permettre de redonner de l'air aux deux institutions régaliennes, gendarmerie, pour être sur le terrain. Puis ensuite, je crois qu'il faut qu'on priorise nos actions. On voit bien qu'aujourd'hui, tout est priorité. Je vous rejoins, madame. Je ne vous dis pas qu'il faut mettre tous les délinquants en prison. Ce n'est effectivement pas d'abord ni pertinent, ni intéressant pour la société. Je parlais des criminels qui, eux, font des actes graves. Il faut qu'on arrive à trouver cet équilibre qui fait qu'on retrouve nos policiers dans la rue. Et la police, c'est ni de la proximité, ni de la répression. C'est les deux. Elle doit marcher sur ses deux jambes. Et pour ça, il faut décongestionner cette institution, il faut la décloisonner, il faut lui enlever ses charges indues, il faut transférer des charges à des partenaires privés. Il faut avoir ce courage-là. Les États-Unis font garder des bâtiments du FBI par des boîtes privées. Il faut qu'on voit ce qui se fait à l'étranger. Il y a des exemples qui sont excellents à l'étranger. On voit bien qu'on a pris du retard. Puis évidemment, après, il y a toujours l'investissement sur le régalien. J'entendais le budget de la justice par un de vos intervenants à 3,5 milliards. Celui de la police, c'est 11 milliards. Et il y en a 10 qui sont engloutis dans la masse salariale. Vous voyez bien déjà qu'on a 1 milliard par an pour investir. C'est rien, c'est dérisoire. Donc il faut que tous ces sujets soient mis sur la table et qu'il y ait consensus national. Et là, la route est longue au niveau de la classe politique quand on voit comment les sujets de sécurité font que les différents camps s'étripent les uns les autres.
Et il nous reste 1 minute 30, David Lebars. Là. Vous avez vu que la police va être appuyée par les citoyens réservistes.
Ah bah 30 ça 000. Va, c'est ça que je voulais te dire.
Voilà, mais 30 000, c'est la question d'Elina Dumont. 30 000 d'ici 2030, 15 jours de formation. Et dans les 15 jours, il y a aussi le maniement de l'arme. Qu'est-ce que vous en pensez de ces citoyens réservistes policiers?
J'en pense que du bien, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que ça va nous ouvrir à la société civile. Ça va être pour le moment 7 000 personnes, à terme 30 000 qui vont venir de différents métiers, plombiers, charcutiers, boulangers, cadres, pilotes, qui vont venir nous aider dans la police, ils vont découvrir l'institution de l'intérieur. Deuxième point, ce ne sont pas des policiers au sens actif du terme, c'est des citoyens réservistes volontaires, ils sont formés, mais ils seront encadrés par des gens qui, eux, feront en sorte de les mettre sur des missions dans lesquelles ils peuvent aller. Ils ne vont pas être avec les mêmes missions que les policiers actifs. Et puis, troisième point, ça va créer des vocations et ça va aérer notre institution. Ça n'a que des effets positifs. La gendarmerie a ce dispositif depuis longtemps. D'autres pays l'ont fait. On avait du retard, on est en train de rattraper ce retard.
Merci David Lebars d'avoir été en direct avec nous dans les GG sur RMC et RMC Story.